J'ai ton jeu de radio insolite en pleine canicule dans l'amphithéâtre. C'est pas l'amphithéâtre des Trois Gaules, ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est l'Odéon.
Voilà, l'Odéon et le théâtre.
Avec. Alors, je sais pas comment décrire ta tenue, comment il faut que j'explique.
Bah, je porte une tunique typique de l'Antiquité, deux pans de tissu rectangulaire, cousu bord à bord au niveau des épaules, et un trou pour la tête et deux trous pour les bras.
Alors, tu viens de nous présenter quand même les Jeux Olympiques à l'époque des Romains, c'est bien ça?
Les Jeux Olympiques à l'époque, et le sport à l'époque égyptienne, grecque et romaine.
Oui, parce que ce qui est un peu étonnant, alors qu'on est à 48 heures de l'allumage de la flamme olympique pour Paris 2024, ce qui est un peu étonnant, c'est quand on entend flamme olympique, quand on entend Jeux Olympiques, on peut penser que c'est Olympie.
Oui, oui, ben c'est Olympie, les Jeux Olympiques, c'est Olympie, le concours olympique, c'est Olympie. Mais évidemment, il y a des concours partout et du sport partout. C'est-à-dire qu'on est focus sur Olympie et c'est normal, c'est le plus grand concours de l'histoire. On a aujourd'hui un renouveau des Jeux Olympiques parce que dans l'Antiquité, c'était le plus grand concours de l'histoire. Mais à l'époque romaine, il y a 400-500 concours par an et à l'époque grecque, peut-être 200. Donc on a, ne serait-ce qu'en Grèce, quatre grands concours panhelléniques qui rassemblent tous les Grecs, des concours à Athènes et puis des concours un peu partout. Une petite ville comme Arles a son concours. Donc on a une inscription qui nous le démontre. Donc si vous voulez, on se focus sur Olympie et c'est un peu normal parce que c'est le plus grand concours, mais il n'y a pas qu'Olympie.
Alors, qui es-tu, toi ?
Moi, je suis Brice Lopez et je suis le directeur de la société ACTA.
D'accord. Et alors, là, on parle de... Ça y est, Philippides, non ? Philippides ?
Philippides. Philippides ou Philippides, hein, y a deux façons de le dire et de l'écrire. C'est littéralement celui qui se passe des chevaux. C'était les messagers. Donc, en fait, si vous voulez, ces deux journées, elles ont été mises sous le thème de ces messagers de l'Antiquité qui transmettaient les informations pendant la guerre et qui faisaient ça à pied en se passant des chevaux. C'est pour ça que j'ai couru tout à l'heure entre ici et l'amphithéâtre des Trois Gaules en ville, puis je suis surmonté en courant avec cette tenue grecque, ce bouclier, ce casque, et qu'on fait ces présentations où l'idée est de passer un message, de passer une information. Voilà, donc l'idée vraiment est de transmission, d'héritage, pour que les plus jeunes comprennent à la fois l'histoire du sport et l'histoire du sport qu'ils pratiquent parce qu'ils la connaissent très très mal. Et puis l'histoire de ces monuments, de ce patrimoine qui n'est pas comme vieux tas de pierres et qui pourrait passer pour leurs yeux, pour juste un terrain de jeu pour courir, monter dessus. Et il faut leur expliquer ce que c'est. Et si on ne leur explique pas, ils ne peuvent pas savoir. Hein. Donc il faut leur expliquer, leur transmettre la passion à la fois du patrimoine, de l'histoire, de ce passé et qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement un truc pas accessible. En faisant du sport, on fait un truc ancien, c'est sympa, on s'amuse et on apprend de l'histoire, on apprend du patrimoine, et des langues anciennes.
Ce qui est original, c'est dans les sports que tu as présentés, en particulier sur le pentathlon, ce sont des sports qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Oui, ce sont des disciplines qui sont cousines à celles qu'on pratique aujourd'hui. Lancer de javelot, soit à longueur, lancer du disque, mais elles ne sont pas identiques. Quand on a fait un renouveau du sport et surtout des Jeux Olympiques, on a petit à petit aussi fait le renouveau de ces pratiques, mais avec une vision moderne, avec des stades modernes, une ambition moderne et notamment avec quelque chose qui était dans l'air du temps, qui était dû au capitalisme naissant et à la révolution industrielle et à l'idée de compétition absolue, c'est l'idée de toujours faire plus, plus haut, plus loin, plus fort. La performance. Et ça n'existe pas chez les Grecs. Les Grecs, ne c'était pas plus haut, plus fort, plus loin, plus vite, plus je sais pas quoi. C'était je veux gagner. Gagner. Là, à l'instant T. Être le meilleur maintenant. Mais si demain, je gagne en étant moins haut, moins fort, moins rapide, c'est pas grave. L'important, c'est que je gagne. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit différent du nôtre où nous, on cherche la performance. C'est pas que c'est bien ou moins bien, hein, c'est deux choses différentes. On est dans deux sociétés différentes. Et donc, les disciplines qu'on pratique aujourd'hui, elles sont parentes, mais elles ne sont pas filles et mères. C'est pas une tradition, il n'y a pas une continuité historique.
Est-ce que les sportifs qui gagnaient avaient la même réputation, le même aura qu'aujourd'hui ?
Je pense plus encore, surtout Olympie. Je pense que Olympie, quand tu gagnes Olympie, tu es olympionique, tu as ton ruban de laine rouge, tu le portes autour de ta cuirasse quand tu vas à la guerre. Enfin, je pense qu'on ne mesure pas la force que c'était d'être olympionique. Parce qu'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Parfois, ils sont un peu célèbres. Des Mbappé, des Usain Bolt, voilà, quelques-uns. Mais beaucoup, champion de lancer de poids, le champion de lancer de javelot, enfin, voilà. Il y en a quelques-uns qui sont médiatiques, mais plus médiatiques que honorés. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Tandis que dans l'Antiquité, le fait d'être olympionique, d'abord, on inscrivait ton nom dans la pierre, on le prolongeait pour l'éternité, on savait pour l'éternité que t'étais un champion. On le sait aujourd'hui grâce à ça. Est-ce qu'on va se rappeler de tous les champions qu'on a, nous, dans 2000 ans ? Voilà, donc il y a ce côté vraiment à Olympie où c'est le summum du concours sportif de l'Antiquité.
Dans les trucs insolites, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Je savais que c'était à Londres que le marathon avait été prolongé puisque le roi voulait que ça passe devant ses fenêtres. Mais j'ai toujours cru que c'était le guerrier grec qui était parti de marathon, qui avait couru les 41 km. Et en fait, ce n'est pas ça. C'est une idée française, d'après ce que j'ai compris.
Alors, oui, on a cette légende de marathon. Mais c'est un Français, Michel Bréal, qui était helléniste, qui connaissait ce texte, ou ces trois textes-là qui parlent de cette bataille de Marathon, et qui a décidé, parce qu'il était ami de Pierre de Coubertin, d'offrir avec sa fortune une coupe à un coureur qui ferait une course extraordinaire. Mais il n'a pas dit tout de suite forcément un marathon. C'est parce que les Jeux étaient à Athènes, les premiers Jeux étaient à Athènes, qu'ils ont décidé avec Pierre de Coubertin de l'appeler Marathon et de faire partir de la plaine de Marathon pour aller à Athènes. Et ça fait à peu près 41 km. Donc, si vous voulez, oui, le Marathon a dans la tête de Michel Bréal, un lien avec l'Antiquité. Mais cette course de marathon dans l'Antiquité, d'abord, ce n'est pas un concours olympique, il n'y a pas de marathon aux Jeux olympiques, et en plus, c'est une légende, on n'a pas de certitude sur le fait que ça soit vraiment passé. Mais par contre, elle a influencé cette légende de Michel Bréal, qui a créé, avec Pierre de Coubertin, le marathon, gagné pour la première fois par Spyridon Louis, un grec, sur la distance de 41 et quelques, et puis en 1908, le roi, Édouard VII, si je me souviens bien, qui a décidé de faire passer le marathon et boum, qui a rallongé la distance et qui a fait 42,195. Et depuis 1908, on a fixé ça. Voilà. Et donc, c'est une épreuve, le marathon, que je vénère, que j'adore, pour à la fois sa difficulté, à la fois, voilà, c'est une épreuve dure, et à la fois ce côté incroyablement universel. Quelque chose qui transcende un peu et qui va au-delà de ce qu'on est, nous, en tant qu'athlètes de France, d'Italie. Là, c'est le marathon. Quoi. Tu fais le marathon, c'est, voilà, c'est un truc international.
Comment tu seras habillé quand tu vas porter la torche ? J'appelle ça la torche. Tu vas corriger toi-même.
Alors oui, je vais être porteur de la flamme et comme tous les porteurs, je porterai le costume, le survêtement, la tenue des porteurs de la flamme.
Tu ne seras pas quand dans cette tenue-là ?
Non, je n'ai pas le droit d'être dans cette tenue-là et c'est normal. Moi, ça ne me gêne pas, mais je trouve normal que les porteurs de la flamme aient un uniforme, à la fois pour qu'on les reconnaisse, à la fois parce que la star, c'est la flamme, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des porteurs. Le symbole fort, c'est la flamme. Et pour moi, je trouve que c'est... même si ce n'est pas une épreuve olympique, hein, on est bien d'accord, dans l'Antiquité, il n'y a pas de course de relais à la flamme. Cette course de relais n'existe qu'à Athènes, elle n'existe pas à Olympie. Pour moi, c'est aujourd'hui, cette course, un symbole d'intégration, de sport universel. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut la faire. Porter la flamme, c'est une sélection. Et pas forcément une sélection parce que tu es un très bon athlète. Hein. Moi, je ne suis pas spécialement un grand athlète. Tu fais 200 mètres, donc tout le monde peut le faire. Mais par contre, tu fais partie d'une communauté. 10 500 personnes qui vont en France porter la flamme, en Outre-mer porter la flamme. Et avec ce survêt, avec cette tenue. Et donc, il y a quelque chose un peu... On est tous dans cette dynamique de... On fait un relais tous ensemble. On est des citoyens lambda et on porte un message. Encore une fois, comme Philippides. Et donc, c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que j'ai postulé aussi en tant qu'ancien sportif. Voilà, je trouve, c'est pour moi, c'est une sorte de point final à ma carrière de sportif. J'ai 55 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait beaucoup de choses et maintenant je peux m'arrêter et me dire voilà, j'aurais porté la flamme. C'est un énorme honneur que m'a fait ma fédération de me sélectionner. Je n'y croyais pas forcément. J'avais postulé, mais voilà, comme beaucoup. Et j'y croyais pas vraiment. Et voilà, c'est vraiment la Fédération française de pentathlon moderne qui m'a sélectionné. Et je suis vraiment honoré de ça parce que c'est vraiment ouais, un honneur.
Allez, dernière question. Là, on a la chance de t'avoir depuis hier ici dans l'amphithéâtre du musée Luc Dunhomme, notre musée, comment dire, gallo-romain. Où est-ce qu'on peut te retrouver demain, après-demain?
Partout en France. En fait, on va suivre. Alors, ça, oui, je peux pas le dire, mais si, partout. On va être à Arles, on va être à Carcassonne, on va être à Font-Romeu, on va être à Neuville. On vient d'ici, dans votre région, à Neuville, le 21 juin. On va être à Neuville le 21 juin pour justement accompagner la femme olympique et faire des animations comme celle-ci. On va être à Mirville sur le château de Pierre de Coubertin. On va être à Thésée-la-Romaine. On va être à Caen, à Vieux-la-Romaine, à Normandie. On va être à Blisbruck, en Moselle. On va être dans des dizaines et dizaines d'endroits. Il faut aller sur notre site internet.
C'est ce que j'allais te demander.
Voilà. Le plus simple, c'est d'aller voir notre calendrier. Vous tapez ACTA, A-C-T-A, -6, Archeo, A-R-C-H-O, acta-archeo.com. Vous allez sur notre calendrier, vous avez toutes nos dates.
Je te remercie.
Merci beaucoup.